bien, nous pouvons reprendre et signalant que ce travail est aussi fondé sur des ressources propres de la bibliothèque du collège, puisque Marcel Bataillon a légué sa bibliothèque, donc à la fois les livres qu'il a lus et d'autre part les livres qu'il a écrits ou des tirés à part de ses articles, et qui forment un fond très cohérent et très important ici dans la bibliothèque du Collège de France, sachant que les archives manuscrites, par exemple les cours de Bataillon, sont conservées à l'IMEC, c'est-à-dire à l'abbaye d'Ardennes près de Caen, et qui sont une source importante, puisque l'année dernière, ou il y a 2 ans, avaient été publiés les 2 premiers cours qu'il avait consacrés, qui n'étaient pas consacrés à Las Casas, mais aux premières années de la Compagnie de Jésus. Alors, je reviens à 1555, donc, la publication. Vous avez entendu l'argument traduit par Migrod. Alors, on a ici la page de titre, et comme vous le voyez, ce que j'essayais d'expliquer, la seule mention, c'est celle de l'année, ici, et puis toute absence de citation d'un privilège ou d'une licence. Ce bois gravé est le bois gravé utilisé par l'imprimeur, donc avec les décors, et il le réutilise pour d'autres traités de Las Casas, et au milieu, ce qui était un autre poids, qui est peu commenté d'ailleurs par les éditeurs, mais un autre poids d'autorité, c'est-à-dire d'utiliser les armes de l'empereur, puisqu'on a là cette à la fois plus outre, je remercie d'avoir donné cette indication à notre auditeur, plus outre qui est la devise de Charles Quint, et le blason qui correspond à ses propriétés, enfin ou à ses dominations ou ses souverainetés. Et dans d'autres des traités, puisqu'il y en a 7 autres qui accompagnent celui-ci, on aura la réutilisation soit de cette page de titre, soit une autre page de titre qui, elle, a le blason du roi de Castille et Léon, et les mêmes décors qui accompagne ce frontispice. Et vous voyez donc les éléments que j'avais commentés, brevissima relación de la destruición de las Indias, colegida por el obispo Fray Bartolomé de las Casas, o Casaos, son deuxième nom d'origine nobiliaire suspecte ou mystérieuse, de la orden de Santo Domingo. Et le point intéressant, c'est que ce traité, comme les 7 autres, sont imprimés dans la lettre gothique et non pas en romain, qui poserait d'ailleurs une autre question de cette survivance de l'utilisation des lettres gothiques, tant où le romain l'emporte, au moins en France, peut-être moins rapidement et moins décisivement en Espagne. Alors, 1555, donc cette édition, 1552, cette publication imprimée, la raison qui en est donnée est évidemment l'idée que malgré las leyes nuevas, se sont poursuivies les cruautés aux Indes, et une allusion même plus précise qui était celle qu'il fallait empêcher que puissent reprendre de nouvelles conquêtes. Ici, c'est une allusion directe à ce qui avait été les événements du Pérou, puisque en 1549-50, avait été suspendue ou interdite de nouvelles conquêtes, et la pression, évidemment, des colons, c'était de reprendre, et c'est cette allusion qui est faite ici, importuner le roi pour, avec son aveu et autorité, commettre une autre fois ou faire des choses pires, si pires il y en pouvait avoir. Donc, c'est cette présence de la reprise de la colonisation ou de la perpétuation des mêmes cruautés qui est donné comme la raison de la publication. Le destinataire est très clairement donc notre seigneur ou prince notre seigneur, donc il s'agit bien de Philippe II qui était régent des royaumes d'Espagne et des Indes occidentales par conséquent, en 1552, donc en position d'intervenir pour empêcher la reprise des conquêtes et réformer l'administration des Indes. Et cette remarque curieuse sur le fait que le texte a été imprimé pour que son Altesse le pût lire plus aisément. L'expression, donc, dans le texte espagnol, ponerla la relación en molde. En molde, ça veut dire évidemment en impression, le caractère impression, le moule qui forme les caractères typographiques, pour que son Altesse le puisse lire plus aisément. C'est un trait un peu curieux qui pouvait peut-être être encore lié avec cette absence de licencia ou cette absence d'approbation dans une sorte de justification, comme si finalement il n'y avait qu'une copie unique de ce texte qui était destiné au roi et que c'était en quelque sorte une copie au propre qui lui était remise grâce au caractère typographique. Alors qu'en fait, on sait qu'il y a, personne ne sait le nombre d'exemplaires, du tirage de la relation, mais c'est un texte assez fréquent dans les bibliothèques. Le contexte, là, est un contexte aussi éditorial et pas seulement historique. Ce contexte éditorial, il est le fait qu'on l'a peut-être parfois oublié, c'est un des 8 traités qui ont été imprimés en même temps, 7 d'entre eux par le même imprimeur, à Séville en 1552, Sébastien Trujillo. Et un autre a été imprimé par les Kronberger. Comme je le disais, le contexte ici est le fait que Las Casas fait imprimer ces traités dans une certaine urgence, qui est celle de fournir un matériel à ces missionnaires qui vont partir pour tenter une nouvelle fois cette colonisation évangélique dans le Chiapas, avec ce projet donc d'une colonisation pacifique. Alors, quand on voit la totalité de ces 8 traités, on voit qu'il y en a effectivement 4 qui peuvent correspondre à ce besoin, à cette urgence de doter les missionnaires d'un matériel utilisable pour la conversion et l'évangélisation, un matériel nécessaire à leur mission. Le premier traité qui s'appelle Octavo Tratado, le 8e traité qui a été rédigé en 1542, donne 20 raisons pour la nécessité de soustraire les Indiens au régime de l'encomienda et donc du coup de les soustraire à ce statut de vassaux, de serfs, d'esclaves, et 20 mêmes raisons pour les placer directement sous la souveraineté du roi et donc de les transformer en sujets libres. Ce traité-là renvoie évidemment à l'exigence du droit naturel qui ne récuse toute forme d'asservissement. Et d'autre part, elle correspond aussi à la protection des droits de la couronne, puisque c'est la condition pour que, comme je le disais, que les peuples ne soient plus détruits et que donc une richesse d'hommes, mais en même temps aussi une richesse de ressources, ne soit pas dérobée par les encomenderos, par les colons, aux dépens du roi. Le deuxième traité a pour titre traité sur les Indiens qui ont été faits esclaves et nécessité de leur réparation. Le troisième, qui a été l'objet de très grandes polémiques, qui a été le résultat à la fois d'une lettre pastorale de Las Casas en 1545, puis de ce concile mexicain de 1546, c'était les règles données aux confesseurs lorsqu'ils confessaient des encomenderos, et exigeant d'eux, d'après les règles, le repentir de ce qu'ils avaient fait, commis cruauté et tyrannie, et aussi de la réparation faite nécessaire pour les colons par rapport aux Indiens. Et le dernier de ces textes embarqués avec les missionnaires était un résumé de la controverse de Valladolid, donc de 1550, des arguments de Sepúlveda et leur récusation point par point par Las Casas. Donc on a là quatre des huit traités qui ont une fin pratique et qui vont, on peut le supposer, pour l'essentiel de leurs éditions, être envoyés en Amérique. Les quatre autres traités sont d'un ordre différent, dans la mesure où ils appartiennent à cette logique de la démonstration par Las Casas de l'illégitimité de la forme prise par la conquête, et ce sont des traités de caractère juridique qui vont, on peut le supposer, rester en Espagne et être adressés à la cour, aux ministres et aux élites qui peuvent peser d'un poids dans la décision sur l'administration des Indes. Il y a un premier traité qui est un traité justificatif de l'empire souverain et du principe universel que les rois de Castille et Léon ont sur les Indes. Et là, on revient donc à la bulle de 1493, lorsque le pape avait donc donné ce principe universel, cet empire souverain aux rois de Castille et Léon sur toutes les terres et territoires découverts, donc à la fois la légitimité d'une souveraineté, mais qui n'était pas nécessairement l'abolition des souverainetés des princes locaux, des princes indiens, de la même manière que l'empereur d'Occident est empereur de tout l'Occident, mais pour autant il n'est pas il existe les rois de France ou d'Angleterre. Donc c'était ce modèle-là qui était ce modèle de ce principat universel donné par le pape pour l'évangélisation, pour la conversion. Il y a un deuxième traité qui a pour titre 30 propositions muy juridicas, très juridiques, sur les droits de l'Église et des princes chrétiens sur les Andes et sur les fondements de cette souveraineté. Et puis il y a un traité en latin de regia potestate, du pouvoir du roi. Tous ces traités ayant les trois à la fois la dimension d'une réaffirmation de la légitimité de la souveraineté espagnole sur les Indes, au moins après le partage qui a suivi la bulle de 1493 et qui donnait une part de ces nouvelles terres au Portugal et une part aux Espagnols. Donc il réaffirme cette puissance, cette souveraineté impériale de l'Espagne, mais en même temps, il réaffirme que cette souveraineté ne peut pas être entendue comme l'abolition, la destruction de souveraineté légitime selon le droit naturel des princes indiens. Et c'est à ces trois traités juridiques que la Brevissima Relation vient donner en quelque sorte un appui rhétorique, puisque s'y trouve à la fois exalter la légitimité de la Castille dans un ordre juste, qui reconnaîtrait la légitimité des princes indiens, qui reconnaîtrait la liberté des Indiens comme sujets libres du roi, et d'autre part la situation telle qu'elle est par rapport à ce modèle antagoniste, la situation qui est celle de la destruction et des droits du roi et du service de Dieu et de la liberté des Indiens. Alors on voit que dans ces traités, il y a comme l'affirmation par Las Casas de sa manière de concevoir ce qui était la théorie des justes titres de la souveraineté espagnole. Et ici, on peut rappeler, en s'appuyant sur la très belle et très profonde introduction qu'avait donnée un collègue hispaniste décédé très jeune, Alain Millou, dans l'édition de la traduction française de la destruction des Indes, la traduction de Migrod de 1579, on peut rappeler que cette théorie des justes titres qui est interprétée et reprise par Las Casas dans ses traités, est une théorie qui naît dans le sein de la philosophie thomiste de l'université de Salamanque, et en particulier autour de la figure d'un des, de ces théologiens qui est Vittoria. Les trois fondements de cette référence à une théologie thomiste sont, premièrement, que le droit naturel préexiste au droit divin qui en donne la forme la plus perfecte. Du coup, existe une loi naturelle universelle qui définit des droits et des devoirs semblables pour tous les hommes, quels qu'ils soient, et qui ont ces droits et ces devoirs une même fin, d'assurer le bien commun et la paix entre les nations et les individus. Il y a donc ce premier fondement de la théologie thomiste interprétée par les professeurs de Salamanque, qui est ce primat de la loi et du droit naturel. Le deuxième fondement et la conséquence du premier, c'est l'idée que les princes indigènes ont une légitime souveraineté sur leur territoire et leur peuple. Et donc, troisièmement, la souveraineté espagnole, qui a été concédée par la puissance pontificale, ne peut s'exercer que si elle est fondée sur des titres légitimes. Et en particulier, si les princes indigènes viennent à violer les principes de la loi naturelle, c'est-à-dire empêcher la communication entre les hommes, c'est-à-dire empêcher la propagation de la vérité, ou encore exercer la tyrannie ou des tyrannies contraires avec ce droit naturel, par exemple les sacrifices humains. Donc, il y avait ce triple fondement, mais qui pouvait donner lieu, évidemment, à des interprétations complètement divergentes, puisque cette théologie thomiste pouvait justifier, au nom des titres légitimes, justes, la conquête, considérant que les princes indiens avaient violé ces principes du droit naturel, ou elle pouvait, dans la formulation de Las Casas, être un frein et un obstacle à ce qui était l'exercice des cruautés et des tyrannies. Dans la mesure où Las Casas restitue dans ses traités au centre de la légitimité de la souveraineté espagnole la tâche d'évangélisation qui était effectivement l'essentiel dans la bulle de 1493. Mais cette tâche d'évangélisation a un certain nombre de conditions qui sont énumérées au fil des traités. La première, c'est qu'il s'agit d'une évangélisation qui doit être assurée par des missionnaires, par des clercs, et non pas par des encomenderos, des propriétaires terriens qui s'en préoccupent guère. La deuxième, c'est qu'elle suppose la libre acceptation des Indiens, aussi bien les princes que les peuples, et que donc, du coup, on ne peut pas en faire du requerimiento, de cette parodie d'acceptation de souveraineté, un acte authentique, qu'elle doit, troisièmement, respecter les coutumes et lois des Indiens, si elles ne sont pas contraires avec la morale ou la foi chrétienne, et d'autre part, du coup, on doit respecter les droits des princes dont le roi d'Espagne devient en quelque sorte un empereur au-dessus des princes, mais sans détruire leur propre souveraineté. Et finalement, cette conversion qui est préalable à la souveraineté exercée par l'Espagne doit être pacifique, elle doit être une conquête évangélique, accompagnée d'une colonisation agraire par des paysans ou par la présence aussi d'artisans espagnols, et en rupture totale avec le système de la encomienda. Et comme je le disais, l'obsession pour ce que Millou appelait une utopie agraire hispano-indienne a habité tous les projets de Las Casas dès 1537. Puis ensuite, c'est la raison qu'il fait accepter d'être évêque du Chiapas, et on voit qu'en 1555, c'est encore ce rêve, cet idéal qui peut justifier sa présence à côté des missionnaires qui vont partir pour l'Amérique. Si ces conditions ne sont pas respectées par les Espagnols, on a du coup l'éclaircissement de l'emploi du mot tyrannie qui est obsédant dans le texte de Las Casas, c'est-à-dire c'est non plus la tyrannie des princes indiens opposés à la loi naturelle, mais ça devient la tyrannie des colonisateurs espagnols qui, par leur violence, non seulement violent la loi naturelle, mais aussi la loi divine. Et donc, du coup, cette inversion de la catégorie de tyrannie qui pouvait être utilisée dans une des interprétations de la philosophie thomiste comme étant la justification de la conquête, les princes indiens étant tyranniques, la tyrannie se définissant aussi dans ce contexte du XVIe siècle à partir du fait de ne pas respecter ni les propriétés ni la vie des sujets, elle est renversée par le fait que ces tyrannies deviennent l'équivalent ou le lien avec les cruautés commises par les Espagnols, qui sont dans un sens plus grave encore, puisque là, elles violent non seulement les lois naturelles, mais aussi ce qui, pour un peuple chrétien, était l'enseignement divin. Donc, c'est dans ce contexte que se situe la publication de ce traité au milieu des 8 autres traités publiés en 1552. Alors, si l'on entre un peu plus avant dans le texte, on peut prendre le début. Je ne vais pas faire le commentaire de l'ancien texte, mais donner à partir d'un exemple ce qui est la manière de construire des paradoxes et des inversions par Las Casas, dans la mesure où le point fondamental dans la perspective de Las Casas, qui est une perspective aussi prophétique et apocalyptique, rappelant que le contexte plus général de cette réflexion de Las Casas est ce contexte dans lequel l'imminence de la fin des temps est perçu par les chrétiens, un monde épuisé qui va vers sa fin. Donc sur cette toile de fond, une parole qui est non seulement une parole critique, dénonciatrice et réformatrice, mais aussi une parole qui est une parole prophétique et apocalyptique. Là, premier élément de cette manière de penser, c'est de partir de la destruction des peuplements, des nations indiennes par le travail forcé, par les tribus excessifs et par les massacres. Il y a une sorte de préambule à ce voyage chronogéographique qui est la structure du texte et qui est un préambule qui a simplement pour titre une narration très brève de la destruction des Indes, qui serait comme encore une autre fois un résumé de ce résumé qu'est la Brevissima Relation. Et dans ce préambule, le premier élément qui est donné, c'est cette idée: nous pouvons donner bon et certain compte qu'il est mort, ai-je dit 40 ans, par les dites tyrannies et actions diaboliques des Espagnols, injustement et tyranniquement, plus de 12 millions d'âmes, hommes, femmes et enfants. Et véritablement, je crois et ne pense point être abusé, qu'il y ait mort plus de 15 millions d'âmes. Il y a une rhétorique de Las Casas qui a donné lieu ensuite à de très nombreux commentaires, qui est d'utiliser des estimations chiffrées sur les dépopulations, soit de territoires particuliers, soit comme ici, sur la totalité des Indes. Et dans les débats ouverts autour de la véracité de ce qu'avance Las Casas, ces données chiffrées ont souvent été un objet. Les commentateurs les plus récents, contre ceux qui voyaient là presque une figure rhétorique qui n'avait pas de fondement dans la réalité, mais qui était de produire l'épouvante, de produire un effet d'effroi devant des chiffres de dépeuplement considérable, a été plutôt récemment de mettre en rapport ces estimations de Las Casas héritées de la littérature qu'il avait pu lire avec les travaux des démographes, en particulier ceux que Pierre Chaunu avait qualifié d'école de Berkeley, et qui, à partir de différents types de sources, arrivaient à montrer des populations qui étaient aussi radicales que celles évoquées par Las Casas. Lorsqu'on pense, par exemple, que sur le haut plateau du Mexique, les populations pouvaient être estimées avant la conquête à 25 millions d'habitants et qu'au milieu du XVIIe siècle, on est à moins d'un million d'habitants indiens. Donc, il y a une sorte, sans doute à la fois, d'utilisation rhétorique et spectaculaire des nombres par Las Casas et en même temps un diagnostic qui n'est pas éloigné de la réalité de la destruction démographique, évidemment plus liée à la circulation des maladies, ce que le roi Ladurie avait appelé la première unification microbienne du monde, que à ce qui est avancé par Las Casas, c'est-à-dire des massacres et des tueries. Dans cet effet de dépopulation, le travail forcé d'une part, les épidémies d'autre part, ont eu le rôle le plus essentiel. Donc, la destruction des peuples et d'autre part, les cruautés ou les supplices infligés par les Espagnols. Et là, vague à partir de multiples exemples atroces qui jalonnent tout le texte, Las Casas va utiliser d'une manière systématique l'inversion d'une image biblique qui était celle des agneaux venant prêcher au milieu des loups. Et dans la rhétorique de Las Casas, l'inversion est que les Indiens sont las ovejas, sont les agneaux, et que les colons ou les colonisateurs ou les conquistadores espagnols sont les loups ou les lions qui s'insèrent pour la plus grande brutalité dans ce monde de brebis et d'agneaux, rappelant en même temps évidemment que l'identification christique, le symbole du Christ comme agneau, était une donnée fondamentale et que donc il était déplacé des supposés chrétiens qui, en fait, ne l'étaient pas, mais étaient des agents du diable, à ces Indiens qui n'avaient pas connu la révélation de la parole, mais qui étaient, en fait, incarnaient eux-mêmes cette dimension christique. À ces agneaux tant doux et doués de leurs facteurs et créateurs, comme il a été dit, des Espagnols sont entrés, incontinent qu'ils les connurent, comme des loups, des lions, des tigres très cruels, de longtemps affamés, et n'ont fait en ces quartiers-là depuis 40 ans en ça et ne font encore aujourd'hui autre chose, sinon de les mettre en pièces, de les tuer, de les angoisser, de les affliger, de les tourmenter et de les détruire par étrange façon de cruauté jamais vue, ni lue, ni ouïe, desquelles quelques-unes se diront si après, si avant, que plus de 3 millions d'âmes qui étaient en l'île espagnole, Hispaniola, et que nous avons vu, il n'y a point maintenant des naturels du pays, 200. Alors, c'est un exemple ici sur la Saint-Domingue où on passe de 3 millions à 200. Et vous voyez qu'à la fois, on revient sur cette idée de voir, lire, écouter, et en même temps, sur cette inversion biblique qui est une des trames permanentes de la parole du Christ aux apôtres, transformée ici par le fait que les chrétiens, ou supposait-elle, sont des loups pour ces agneaux indiens. Le fait fondamental est que non seulement c'est un discours de dénonciation, mais c'est un discours apocalyptique, puisque ces massacres, ces cruautés, ces tyrannies, non seulement blessent les Indiens, mais offensent Dieu. Et du coup, le texte est habité par la colère de Dieu. Et une manière spectaculaire pour Las Casas de le montrer, c'est de montrer que Dieu inflige aux Espagnols le même type de mort que les Espagnols infligent aux Indiens. On peut prendre deux exemples. Un premier exemple, c'est sur le fait des noyades. Le troisième royaume et seigneurie, il s'agit là toujours de Hispaniola, de Saint-Domingue, était Maguana, aussi un pays admirable, très sain, très fertile, où il se fait aujourd'hui le meilleur sucre de cette île. Le roi de ce pays se nommait Caonabo, qui surpassait tous les autres en force et en état, en gravité et en cérémonie de son service. Les Espagnols prirent ce roi avec une grande subtilité et malice, alors qu'il était en sa maison, ne se doutant de rien. Ils le mirent puis après sur un navire pour le mener en Castille. Mais, étant au port, six navires tout prêts à faire voile, voilà que Dieu, par son juste jugement, a voulu montrer que cela, avec les autres choses, était bien une grande iniquité et injustice, envoyant cette nuit-là une tempête qui submergea et abîma tous ces navires avec les Espagnols qui étaient dedans. Et mourut ainsi le dit Caonabo, chargé de fer et chaîne. Le supplice infligé aux Indiens se transforme en un châtiment divin qui fait des Espagnols ses victimes. Un autre exemple aussi spectaculaire de cette inversion, c'est-à-dire où la même raison de la mort est infligée aux Espagnols après qu'il l'ait infligée aux Indiens, plus spectaculaire encore, est celui de périr par le feu. Il s'agit ici du chapitre qui est consacré au nouveau royaume de Grenade, et avec la quête éperdue de l'or par les Espagnols. Ils ont pris un roi des territoires et veulent lui faire avouer où est l'or. Mais parce que le roi ne lui donnait la maison d'or, les Espagnols disaient qu'on les tua, puisqu'il n'accomplissait point ce qu'il avait promis. Le tyran espagnol commanda qu'on le mit en justice devant lui-même. Il somme et accuse ainsi le plus grand roi de ce pays-là, et le tyran donne la sentence, le condamnant à être tourmenté et gêné, c'est-à-dire envoyé, torturé, s'il ne donnait la maison d'or. Il lui donne le tourment et l'estrapade de corde, il lui jette du suif brûlant sur le ventre, et lui met des fers aux pieds qui étaient attachés à un pieu, et lie le col à un autre pieu, deux hommes lui tenant les mains, et ainsi ils lui mettent du feu aux pieds. Et le tyran, y venant de fois à autre, lui dit qu'on le tuerait peu à peu s'il ne donnait de l'or. Et ainsi il l'acheva et fit mourir le dit seigneur en ses tourments, durant lesquels, tourments, Dieu montra par signe que ses cruautés lui déplaisaient en consumant de feu toute la ville où il se commettait. Donc, le jugement divin qui inverse la victime de cette torture ou supplice par le feu et exerçant son pouvoir contre ces tyrans qui ne sont plus des princes indiens supposés tyranniques, mais qui sont les conquistadores ou encomenderos espagnols. La forme que prend évidemment cette idée de l'offense de Dieu, du châtiment exercé contre les Espagnols, est l'idée prophétique que la destruction des Indes annonce la destruction de l'Espagne. C'est un thème, comme l'a montré aussi Alain Millou, qui a circulé beaucoup dans l'Espagne de la Renaissance et du siècle d'or. C'est un thème pris en charge par les Morisques. C'est un thème aussi qui était celui des perspective millénariste. C'est l'idée que cette destruction de l'Espagne est inéluctable à partir de ce crime commis contre et la loi naturelle et la loi divine. Je cite un autre passage. « Au jour du jugement, il sera clair quand Dieu prendra vengeance des brigandages tant horribles et abominables comme font ceux-là qui portent le nom de chrétiens contre les Indiens. » Un des textes les plus puissants ne se trouve pas dans la destruction des Indes, mais dans un autre traité, celui qui est celui de l'octavo remedio, du huitième remède, dans lequel Las Casas écrit « Le royaume d'Espagne est en grand danger de se perdre et détruire, d'être dérobé, oppressé, désolé par autres nations étrangères, et nommément par les Turcs et les Maures, parce que Dieu, qui est très juste, véritable et souverain roi de tout l'univers, est fort courroucé par les grandes offenses et péchés que ceux d'Espagne ont commis par toutes les Indes, en affligeant, opprimant, tyrannisant, dérobant et tuant tant et de tels gens, sans raison ni justice, et en dépeuplant en si peu de temps un tel et si grand pays. Tous les gens duquel avaient des âmes raisonnables et étaient créés et formés à l'image et semblance de la très haute Trinité, et étant vassaux de Dieu racheté de son sang précieux, et qui tient compte et ne s'oublie point d'un seul d'entre eux. » Et donc on voit que l'idée finalement fondamentale, c'est que le jugement, le châtiment de Dieu que s'opérera par cette destruction de l'Espagne, soumise à son tour par des étrangers, ici les Turcs, les Maures, comme la réplique à ce qui a été la soumission des Indes et leur destruction par les Espagnols. Là, je vais terminer avec ça, cette vision de la inversion entre les loups et les agneaux amène à une inversion aussi des justes titres. C'est-à-dire, s'il existe des justes titres pour établir la souveraineté du roi des Espagnes sur les Indes, il existe aussi des titres non moins justes pour justifier la résistance ou la rébellion des princes indiens, et c'est sans doute, ou des Indiens. C'est sans doute là un des éléments qui pouvait, en dehors de l'orthodoxie politique des traités de Las Casas, pouvoir inquiéter et peut-être se lier avec cette question d'éviter la censure, de décider par soi-même de publier et d'accréditer la publication par tous les signes d'autorité qu'il était possible. Parce que les moments peut-être les plus forts dans le texte sont ceux où les violences des Indiens sont justifiées comme de justes répliques ou réponses aux violences des Espagnols. Un exemple qui lui vient de la conquête du Mexique dont Las Casas n'a pas été témoin direct, mais qu'il reconstruit à partir d'un certain nombre de textes, soit des conquistadores eux-mêmes, soit des textes des religieux, enfin des catholiques. Ayant commis des iniquités sans nombre, les Espagnols sont l'objet de cette juste vengeance. Les Indiens tuèrent une grande quantité sur les ponts des marécages en une guerre très juste. C'est le moment de la noche triste, de la retraite des Espagnols. Dans une guerre très juste et très sainte, pour les causes très justes qu'ils avaient, comme il a été dit, desquelles tout homme raisonnable et équitable tiendra pour juste. Donc une répétition de ce mot juste. La cause est juste, la guerre est juste, les raisons sont justes. Et tout homme raisonnable et équitable ne pourra que considérer que cette violence commise par les Indiens contre les Espagnols qui se retirait de Mexico, est une guerre juste. Il y a un titre juste pour cette guerre. Et là, le raisonnement de Las Casas va jusqu'au point où les violences, y compris contre des missionnaires, qui n'en sont pourtant pas responsables, qui ne sont pourtant pas responsables des tyrannies commises par les Espagnols, peuvent être elles aussi considérées comme légitimes. Et il y a là, passage se porte sur la côte des Perles, l'île de la Trinité, où un prince indien a été fait prisonnier, où les missionnaires ont promis qu'il serait rétabli, qu'il reviendrait dans l'île, pensant intervenir auprès des autorités pour obtenir cette restitution ou ce retour du prince. Les deux religieux qui avaient promis aux Indiens du pays que leur seigneur, Don Alonso, avec les autres, viendrait dedans 4 mois, voyant qu'il ne venait point, ni en 4 ni en 8, ils s'apprêtèrent pour mourir et donner la vie à qui ils l'avaient déjà offerte devant que partir d'Espagne. Et ainsi les Indiens prirent vengeance en les tuant justement, nonobstant qu'ils fussent innocents, parce qu'ils pensèrent que les religieux avaient été cause de cette trahison et parce qu'ils virent que ce qu'ils leur avaient certifié et promis ne sortait point effet, c'est à savoir que dedans 4 mois ils auraient leur seigneur, et parce que jusqu'à cette heure-là ils n'avaient su, et même maintenant ils ne savent point en ce pays-là qu'il y a différence des frères religieux aux tyrans, larrons et brigands espagnols. Les frères religieux, donc bienheureux, endurèrent injustement, pour laquelle injustice il n'y a nul doute selon notre sainte foi qu'ils ne soient vrais martyrs et règnent aujourd'hui avec Dieu, est-ce Dieu bienheureux qui a voulu qu'ils fussent là envoyés par obédience et qu'ils eussent intention de prêcher et dilater la sainte foi, de sauver toutes ces âmes et de s'ouvrir tous travaux et la mort quand elle leur serait présentée pour Jésus-Christ crucifié. On voit qu'il y a une articulation complexe, subtile, entre l'idée qu'il y a une juste vengeance des Indiens, même si elle s'applique à ses frères qui ne sont pas coupables, et qu'en même temps, ses frères souffrent une injustice, qui est donc celle qui est du martyr et de l'élection. Et pour Las Casas, cette réaffirmation permanente des justes droits à la résistance contre la tyrannie va jusqu'à ce point que, dans ce cas-là, se trouve liée la souffrance injuste qui est celle du martyr, mais qui donc est aussi celle du gage de l'élection divine, avec la violence juste qui est celle des Indiens qui la commettent. Pour clore ce séminaire, et en rappelant évidemment que jusqu'à sa mort, Las Casas a pensé possible une colonisation parfaite, cette colonisation de missionnaires et de paysans. À la fin de sa vie, il rédige un testament en 1556. Et dans ce testament de 1556, c'est réaffirmé avec une force particulière cette idée de la destruction, mais qui n'est plus celle des Indes, mais qui est celle de Dieu, qui est celle infligée par Dieu au royaume d'Espagne. Je termine avec ce texte. « Moi, qui par la bonté et la miséricorde de Dieu fus choisi, quoique indigne, pour défendre toutes ces nations que nous appelons indiennes, propriétaires de tous ces royaumes et territoires, contre les injures et vexations inouïes que nous, les Espagnols, leur avons infligées au mépris de toute raison et justice pour les rétablir dans leur liberté première, dont elles furent frustrées injustement, et pour les préserver de l'extermination violente dont elles sont victimes encore aujourd'hui, alors que des milliers de lieux de pays ont déjà été dépeuplés, bien souvent en ma présence. Moi, qui me suis donné tant de mal à la cour des rois de Castille, après avoir traversé maintes fois l'océan, dans les deux sens, depuis la date de 1514, c'est-à-dire depuis près de 50 ans, sans autre mobile que l'amour de Dieu et la compassion que j'éprouvais à voir périr ces multitudes de créatures rationnelles, si paisibles, si humble, si douce et si simple, si parfaitement apte à recevoir notre sainte foi catholique et à vivre selon la morale chrétienne, si bien doté enfin de toute bonne coutume, j'affirme en conséquence, dans la certitude où je suis d'être d'accord avec la Sainte Église romaine, règle et mesure de nos convictions, que tous les maux infligés par les Espagnols à ces populations, vols, meurtres, usurpations de terres et domaines, ainsi que des états, royaumes et autres biens de leurs rois et seigneurs naturels, et toutes les infernales cruautés qui ont été commises en violation de la très juste et impeccable loi du Christ et de toute raison naturelle, ont souillé gravement le nom de Jésus-Christ et notre religion chrétienne, mis de fatals obstacles à la propagation de la foi et porté d'irréparables préjudices aux âmes et aux corps de ces peuples innocents. Et je crois qu'en punition de ces œuvres impies, scélérates et ignominieuses, si tyranniquement et sauvagement perpétrées, Dieu foudroiera l'Espagne de sa fureur ou de son ire, s'il est vrai que toute l'Espagne, peu ou prou, a pris part des sanglantes richesses violemment usurpées au prix de tant de ruines et d'extermination. » C'était là les derniers textes écrits par Las Casas, et où on voit comme un résumé de tout ce que j'ai voulu essayer de montrer aujourd'hui, à la fois cette insistance sur la loi naturelle et sa raison, la compatibilité entre la liberté des Indiens et la souveraineté du roi d'Espagne, ce modèle d'un peuple ouvert à la christianisation de par leur bon naturel et de par leurs bonnes coutumes, et la déception de toutes ces possibilités par les tyrannies des Espagnols qui, finalement, seront non seulement la cause de la perte de ces Indiens qui n'ont pas rencontré la parole de Dieu, mais la cause plus forte encore de la disparition de l'Espagne, victime de la vengeance divine. Et c'est ça, je crois, qui fait l'armature du texte de Las Casas. Alors peut-être qu'on peut ensuite voir comment ce texte, qui est très lié au contexte espagnol, 1542, 1552, auparavant, les nombreux voyages qu'évoquait Las Casas, le premier en 1514, effectivement, après parti pour 1502 pour Saint-Domingue, il revient en 1514 pour essayer de convaincre le roi de la réforme nécessaire. Comment ce contexte très propre à la monarchie composite espagnole, très propre à la discussion liée à Salamanque, à la théologie thomiste du droit naturel, à la pluralité ou des interprétations de ce droit, a pu être réapproprié dans d'autres contextes, pour d'autres fins. Et comment le texte de Las Casas, arraché en quelque sorte ou détaché de son premier contexte de conception, rédaction et publication, va, à travers la pluralité des traductions, la multiplication des éditions, la présence de l'image, va devenir un texte qui va, depuis la fin du XVIe siècle, peut-être jusqu'au début du XIXe siècle, va être un des éléments les plus fondamentaux de la construction de la légende noire de l'Espagne, et un texte qui va fortifier les résistances, par exemple la rébellion des Provinces Unies et les craintes qui peuvent porter sur cette rébellion si le modèle colonial devenait un modèle européen, ou encore, beaucoup plus tard, va pouvoir être, dans le moment des indépendances des pays des colonies d'Espagne, être une œuvre très souvent republiée, réutilisée au début du XIXe siècle. Donc, on peut peut-être en rester là pour aujourd'hui et reprendre ce dossier, mais en sortant de l'Espagne pour aller vers la circulation du texte pour la semaine prochaine. Merci.